Le prochain livre en question sortit 5 mois standard plus tard. La Terre qui meurt 2 reprenait là où La Terre qui meurt s'arrêtait, en prose banale cette fois-ci. La longueur des phrases et le contenu des chapitres étaient soigneusement établis en fonction des réponses neurobiologiquement recueillies auprès d'un échantillon représentatif de 638 lecteurs de Transcope. Le livre était présenté sous la forme d'un roman assez court pour ne pas effaroucher le lecteur potentiel au présentoir des caisses de l'hypermarché Trucbouffe. La couverture était un holo interactif de 20 secondes où l'inconnu bronzé et athlétique, mon personnage d'Amalfi Schwartz, je suppose, bien qu'Amalfi soit frêle et pâle et porte des lentilles correctrices, déchire le corsage de la grande blonde qui se débat jusqu'au ras des tétons avant qu'elle se tourne vers nous pour hurler au secours avec les lèvres pulpeuses de la star du porno Lida Swan. La Terre qui meurt 2 se vendit à 19 millions d'exemplaires. « Pas trop mal », commenta Tirena. Il faut quand même du temps pour se constituer un public. « Mais le premier a fait 3 milliards d'exemplaires », protestai-je. « Le voyage du pèlerin, Mein Kampf, une fois par siècle, peut-être moins. »« Mais 3 milliards !»« Écoutez », me dit Tirena. Sur l'ancienne terre au XXe siècle, une chaîne de restauration rapide a fait fortune rien qu'en vendant à ses clients de la vache morte frite dans de la graisse, assaisonnée de produits cancérigènes et emballée dans de la mousse à base d'hydrocarbures. 900 milliards d'exemplaires ont été ainsi écoulés. Allez comprendre. La Terre qui meurt 3 mettait en scène la jeune esclave en fuite, Winona, qui finit par devenir propriétaire de la plantation de fibroplastes de son maître, et tant pis si les fibroplastes n'ont jamais poussé sur l'ancienne terre. Il y a aussi Arturo Redgrave, l'audacieux briseur de blocus. Quel blocus! Et Innocence Perry, la télépathe âgée de 9 ans qui se meurt d'un vague mal de nerfs. Innocence durera tout de même jusqu'à la Terre qui meurt 9. Le jour où Transverse m'a autorisé à achever cette foutue petite conne. J'ai arrosé ça avec une cuite de 6 jours sur 26 mondes. Je me suis réveillé dans un boyau poumon d'Evansgate, couvert de vomi et de mousse verte de respirateur, avec le plus grand mal de tête de tout le Retz et la certitude qu'il faudrait que je me mette bientôt au travail sur le volume 10 des Chroniques de la Terre qui meurt. Bon, ce n'est pas difficile d'écrire à l'abattage. Entre La Terre qui meurt 2 et La Terre qui meurt 9, 6 années standards s'étaient écoulées assez paisiblement. Les recherches à faire étaient minces, les intrigues étaient issues d'un livre de recettes, les personnages étaient en carton, la prose sommaire et les loisirs abondants. J'en profitais pour voyager, me marier encore 2 fois, chacune de mes épouses me quittant en bons termes, mais avec une portion non négligeable des droits de La Terre qui meurt en cours. Je me lançais dans l'étude sérieuse des religions et des effets de l'ivresse, trouvant plus de consolation durable dans la dernière que dans les premières. Je gardais néanmoins ma demeure, à laquelle j'ajoutais même 6 pièces sur 5 mondes différents. Je la remplis d'objets d'art, je donnais des réceptions. J'avais des écrivains parmi mes relations, mais nous avions tendance la plupart du temps à nous méfier les uns des autres et à nous tirer dans les pattes, secrètement jaloux de nos succès respectifs. Chacun de nous s'estimait artiste dans l'âme, obligé d'être commercial pour pouvoir manger, alors que les autres n'étaient que de vulgaires tireurs à la ligne. Puis, par un matin froid, alors que ma chambre s'agitait doucement dans les hautes branches de mon arbre du monde des Templiers, j'ouvris les yeux pour voir le ciel gris et constater que ma muse s'était envolée. Je n'avais pas écrit la moindre poésie depuis 5 ans. Les cantos étaient restés ouverts dans ma tour de Denebdrei, quelques pages à peine ayant été écrites en plus de ce qui avait été publié. J'avais utilisé des processeurs de pensée pour rédiger mes romans et l'un d'eux s'activa automatiquement lorsque j'entrais dans ma chambre de travail. « Bordel !» afficha-t-il. « Qu'est-ce que j'ai donc fait de ma foutue muse ?» Que j'ai pu perdre ma muse sans m'en apercevoir vous donne une idée de ma production. Pour ceux qui n'écrivent pas et qui n'ont jamais été saisis par la manie créatrice, parler de muse peut sembler relever de la figure de style ou de la préciosité bizarre. Mais pour ceux d'entre nous qui ne vivent que par le verbe, la muse est aussi nécessaire que l'argile pour sculpter le langage. Quand on écrit, je veux dire réellement, c'est comme si on était connecté par mégatrans avec les dieux. Aucun véritable poète n'a jamais pu expliquer l'exaltation que l'on ressent lorsque l'esprit devient un outil d'écriture, au même titre que la plume ou le processeur de pensée, filtrant et ordonnant les révélations venues d'autre part. Ma muse s'était envolée. Je la cherchais partout dans les autres mondes de ma maison, mais seul le silence me renvoyait son écho vide d'un mur couvert de tableaux de maître à l'autre. Je me distransportais sur tous mes mondes favoris. Je contemplais le coucher des soleils sur les plaines de grâce battues par les vents. Je vis tomber les brumes nocturnes sur les falaises d'ivoire de Nevermore. Mais j'eus beau essayer de tirer mentalement la chasse sur la prose interminable de la terre qui me rend court, qui me bouchait l'esprit. Je n'entendis pas le moindre chuchotement de ma muse. Je la cherchais dans l'alcool et dans le flashback. Je retournais à l'époque productive d'Evans Gate, lorsque l'inspiration était un bourdonnement continu à mes oreilles, interrompant mon travail, me réveillant dans mon sommeil. Mais la voix de ma muse, dans ses heures et ses jours revécus, était aussi sourde et dénaturée que dans un disque audio endommagé, rescapé de quelques siècles lointains. Ma muse s'était bel et bien envolée. Je me distransportais dans le bureau de Tirena Wayne-Greenfaith à l'instant précis de notre rendez-vous. Elle avait été promue éditrice générale au lieu d'éditrice en chef du service Transcop. Son nouveau bureau occupait l'étage supérieur de la spire transverse de Tossetti Central. Et lorsqu'on se tenait sur ce plateau moquetté, on avait l'impression d'être perché au sommet du pic le plus fin et le plus élevé de la galaxie. Seul le dôme invisible du champ de confinement légèrement polarisé était visible au-dessus de nos têtes. Et le bord de la moquette se terminait abruptement sur un vide vertical de 6000 mètres. Je me demandais si des auteurs avaient déjà éprouvé l'envie de sauter. « Votre nouveau chef-d'œuvre ?» me demanda Tirena. L'usus dominait l'univers de la mode cette semaine-là, et quand je dis dominer, il ne s'agit pas d'un vain mot. Mon éditrice était vêtue de cuir et de fer, avec des piquants rouillés aux poignets et autour du cou. Une cartouchière lui barrait l'épaule et le sein gauche. Les cartouches semblaient authentiques. « Ouais !» répliquai-je en faisant glisser le carton du manuscrit sur son bureau. « Martin, Martin !» soupira-t-elle. « Quand vous déciderez-vous à transmettre vos manuscrits au lieu de vous donner la peine de les apporter en personne sur support papier ?»« J'éprouve une étrange satisfaction à le faire, » lui répondis-je. Tout particulièrement dans le cas présent. Ah ? Oui. Vous n'êtes pas curieuse d'en lire quelques lignes ? Elle sourit et fit cliqueter ses ongles noirs contre les cartouches de sa cartouchière. Je suis certaine que la qualité est à la hauteur de votre production habituelle, dit-elle. Je n'ai pas besoin de lire ce manuscrit pour le savoir. Faites-moi plaisir. Je vous assure qu'il n'y a pas de raison. De plus, ça me rend nerveuse de prendre connaissance d'un manuscrit en présence de l'auteur. Celui-ci est spécial. Lisez juste les premières pages. Le ton de ma voix dut l'alerter, car elle fronça légèrement les sourcils avant d'ouvrir le carton. Puis les plis de son front se creusèrent lorsqu'elle tourna la page pour feuilleter le reste. Sur le premier feuillet, il y avait une seule phrase. Et puis, un beau matin d'octobre, la terre agonisante avala ses propres boyaux, fut secouée de son dernier spasme et mourut. Les 299 autres pages étaient vierges.
C'est une blague, Martin.
Non.
Une allusion subtile dans ce cas. Vous aimeriez débuter une nouvelle série?
Non plus.
Votre réaction n'est pas totalement inattendue, Martin. Nos scénaristes ont quelques idées fascinantes à vous proposer. H. Subwayzi estime que vous seriez parfait pour l'adaptation romancée de la série Holo du Vengeur écarlate.
Vous pouvez foutre votre Vengeur écarlate dans votre joli petit cul d'éditrice de masse, lui dis-je d'une voix cordiale. J'en ai fini pour toujours avec Transverse et cette bouillie prémâchée que vous avez le culot d'appeler littérature. L'expression de Tirena ne vacilla pas. Ses dents n'étaient plus pointues, mais leur couleur rouille était assortie aux épines de ses poignets et de son tour de cou.
« Ah, Martin, Martin, » soupira-t-elle. Vous n'avez pas idée de la manière dont vous serez irrémédiablement et définitivement fini si vous ne vous excusez pas. Redressez le volant et roulez droit. Mais cela peut attendre demain. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous pour réfléchir à tout ça la tête sobre ?
« Ma tête est parfaitement sobre, ma chère, » lui dis-je en souriant. « Elle n'a jamais été aussi sobre depuis 8 ans. Mais j'avoue qu'il m'a fallu quelque temps pour me rendre compte qu'il n'y avait pas que moi qui écrivais de la merde. Cette année, il n'y a pas eu un seul livre publié dans tout le Retz qui ne soit pas une crotte intégrale. Alors, je quitte le radeau. »
Tiréna se leva. Pour la première fois, je remarquai qu'à son ceinturon, imitant ceux de la force, pendait un bâton de la mort.
J'espérais qu'il était factice comme tout le reste de son costume.
« Écoutez-moi bien, espèce d'écrivaillon à la ligne, » écuma-t-elle. « Vous appartenez à Transverse depuis les couilles jusqu'aux oreilles. Si vous persistez à vous montrer récalcitrant, nous vous ferons bosser dans notre usine de romans roses sous le pseudonyme de Zézette Lacaille. Et maintenant, fichez-moi le camp d'ici. Dessoulez-vous la gueule et mettez-vous au travail sur la terre qui meurt 10. »
Je secouai la tête en souriant calmement. Ses pupilles se rétrécirent alors légèrement. « Vous nous devez encore près d'1 million de marks sur vos avances, » dit-elle. « Un seul mot de ma part au contentieux et nous faisons saisir chaque foutue pièce de votre maison, excepté le putain de radeau qui vous sert de chiotte. Vous pourrez y rester jusqu'à ce que l'océan se remplisse de votre merde. »
Je me mis à rire pour la dernière fois. « Il y a un système de traitement chimique, » lui dis-je. « De plus, j'ai vendu la maison hier.
Le chèque de remboursement du reliquat de l'avance a dû vous parvenir. » Tiréna effleura de la main le manche en plastique de son bâton de la mort. Transverse a racheté les droits du concept de la Terre qui meurt, comme vous le savez. Quelqu'un d'autre écrira la série à votre place.
« Je lui souhaite bien du plaisir, » fis-je en inclinant la tête. Quelque chose avait changé dans la voix de mon éditrice quand elle s'était aperçue que je ne plaisantais pas. Je compris qu'elle avait des avantages à tirer de ma collaboration future avec Transverse, mais je ne voyais pas lesquels.
« Je suis sûr que nous pouvons arranger ça, Martin, » murmura-t-elle. Je discutais l'autre jour avec le patron et je lui disais justement que Transverse devrait augmenter vos avaloirs et vous laisser débuter une nouvelle série.
« Tiréna, Tiréna, » soupirai-je. « Adieu. » Je me distransportai alors sur le vecteur Renaissance, puis sur Parcimonie, où j'embarquai à bord d'un vaisseau de spin pour gagner Asquith et le royaume surpeuplé du roi Billy le Triste. Note pour un portrait sommaire du roi Billy le Triste. Son Altesse royale, William XXIII, souverain du royaume de Windsor en exil, ressemble un peu à une chandelle de suif humaine qui aurait séjourné un peu trop longtemps sur un poêle trop chaud. Ses longs cheveux coulent en fin ruisseau vers ses épaules molles, tandis que les sillons de son front rejoignent, un peu plus bas, les rides qui entourent ses yeux de basset pour continuer à travers les plis et les replis de ses joues flasques, jusqu'au dédale tremblotant des fanons de son cou et de ses bajoues. On dit que pour les anthropologues, Billy le Triste rappelle les poupées de chagrin de Kinshasa, tandis que pour les gnostiques zen, il évoque le Bouddha de miséricorde après l'incendie du temple de Taizin. Quant aux historiens des médias, ils courent, en le voyant à leurs photos d'archives, pour vérifier la ressemblance avec un ancien acteur de cinéma bidim nommé Charles Laughton. Mais aucune de ces références n'a de signification pour moi. Plus je regarde Billy le Triste, plus je pense à la figure de mon ancien précepteur, Don Balthazar, après une cuite de 8 jours. La réputation de morosité du roi Billy le Triste est quelque peu exagérée, me semble-t-il. Il rit assez souvent, en fait, mais il a le malheur, ce faisant, de secouer ses bajoues de telle manière que la plupart des gens sont persuadés qu'il sanglote. On ne peut rien pour changer sa physionomie. Dans le cas de son Altesse royale, cependant, le personnage tout entier suggère soit le bouffon, soit la victime. Son costume, s'il est permis d'employer ce mot,
frise perpétuellement l'anarchie et représente un véritable défi au sens du goût et des couleurs de ses serviteurs androïdes. Il y a des jours où il jure non seulement avec son entourage, mais avec lui-même. Et l'impression de chaos ne concerne pas que sa mise. Le roi Billy évolue dans une atmosphère de laisser-aller permanent. Sa braguette n'est jamais fermée, sa cape de velours est déchirée et balaie toutes les poussières du sol. La ruche de sa manche gauche est deux fois plus longue que celle de sa manche droite, celle-ci donnant l'impression d'avoir été plongée dans un bocal de confiture. Je pense que vous voyez ça d'ici. Malgré tout, le roi Billy le Triste possède un esprit intuitif et une passion pour les arts et la littérature qui n'ont pas été égalés depuis l'époque authentique de la Renaissance sur l'ancienne Terre. Sous certains aspects, Billy le Triste est un enfant adipeux au visage éternellement collé contre la vitrine d'un marchand de bonbons. Il l'aime et apprécie en connaisseur la grande musique, mais est incapable d'en produire. Amateur de ballet et de toutes choses gracieuses, Son Altesse a la légèreté d'un cornichon ambulant doublé d'une andouille comique. Lecteur passionné, critique de poésie au goût infaillible, amateur de rhétorique, le roi Billy allie un bégaiement rédhibitoire avec une timidité telle qu'il ne peut jamais se résoudre à montrer sa prose ou sa poésie à quiconque. Célibataire toute sa vie, entrant dans sa 60e année, le monarque habite un palais délabré et un royaume de 5000 mètres carrés comme s'il s'agissait d'un autre de ses costumes royaux dépenaillés. Et les anecdotes ne manquent pas sur sa légendaire distraction. Un jour, l'un des peintres auxquels il sert de mécène le croise en train de marcher, la tête penchée en avant, les mains croisées dans le dos, un pied sur l'allée de gravier du jardin et l'autre dans la boue, visiblement perdu dans ses pensées. L'artiste interpelle respectueusement le roi. Celui-ci relève la tête en battant des paupières, regarde autour de lui comme s'il sortait d'un long sommeil et demande au peintre médusé
« Excusez-moi, est-ce que j'allais dans la direction du palais ou dans l'autre ?»«
Dans celle du palais, Majesté, » répond l'artiste.
« Ah, bon !»
fait le roi.
C'est donc que j'ai déjà déjeuné.
Le général Horace Glennon Hite était déjà entré en rébellion et le monde reculé d'Asquith était tout droit sur son chemin de conquête. Asquith ne se tourmentait pas outre mesure pour cela, l'hégémonie ayant proposé de faire bouclier avec une flottille de la force. Mais le royal souverain du royaume de Monaco en exil semblait dans un état de déliquescence adipeuse un peu plus avancé qu'à l'accoutumée lorsqu'il me fit appeler pour me dire
« Martin, vous avez entendu parler de la bataille de Fomalo ?»«
Oui, » répondis-je. « Je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter, Majesté. Fomalo est exactement le genre de planète qui intéresse Glennon Hite, un monde de petite taille, pas plus de quelques milliers de colons, des richesses minières, un déficit de temps d'au moins, combien, 20 mois par rapport au Retz ?»«
23 !»
fit le roi.
« Vous ne pensez donc pas que nous soyons en danger ?»«
Pas du tout. » Avec une durée de transit réelle de 3 semaines et un déficit de temps inférieur à 1 an, l'hégémonie peut nous envoyer des renforts avant que le général ait le temps d'arriver de Fomalo avec ses vaisseaux de spin.
Vous avez peut-être raison,
fit le roi Billy en s'appuyant sur un globe qui se mit à tourner sous son poids et l'obligea à se redresser dans un sursaut.
Mais néanmoins, j'ai décidé de préparer notre modeste égir.
Je battis des paupières, surpris. Billy parlait depuis 2 ans de déménager le royaume en exil, mais je n'avais jamais pensé qu'il pouvait parler sérieusement.
Les vaisseaux sont prêts sur Parvati,
dit-il.
Asquith a accepté de nous prêter des moyens de transport dont nous avons besoin pour rejoindre le Retz.
« Mais votre palais, Majesté, la bibliothèque, les dépendances ?»«
C'était en échange, naturellement. Mais le contenu de la bibliothèque partira avec nous. »
Assis sur le bras du canapé de crin, je me frottais plusieurs fois les joues. Depuis 10 ans que je me trouvais dans le royaume,
J'étais passé du statut de simple protégé à celui de précepteur, confident et ami du roi, mais jamais je n'avais réellement essayé de résoudre l'énigme de ce personnage. Dès mon arrivée, il m'avait accordé audience.
Souhaitez-vous rejoindre le rang des artistes talentueux de notre petite colonie ?
Oui, Majesté.
Et comptez-vous écrire d'autres livres du genre de la terre qui meurt ?
Pas si je peux l'éviter, Majesté.
Je l'ai lu, vous savez. C'était très intéressant.
Vous êtes trop aimable, Majesté.
Foutaise, Achillénus. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est la manière dont il a été émasculé pour n'y laisser que ce qui est mauvais.
J'avais alors souri, surpris de m'apercevoir que finalement, j'allais très bien m'entendre avec Billy le Triste.
Mais les cantos,
soupira-t-il.
Ça, c'était une... peut-être le plus beau recueil de vers publié dans le Retz depuis 2 siècles. Comment vous avez réussi à franchir le filtre de la médiocrité, je ne l'ai jamais compris. J'ai commandé 20 000 exemplaires rien que pour mon royaume.
J'inclinai doucement la tête, incapable de trouver mes mots pour la première fois depuis mon attaque cérébrale qui datait alors de 20 ans.
Est-ce que vous avez l'intention d'écrire encore de la poésie ?
Reprit le roi. Je suis venu ici pour essayer, Majesté.
Soyez le bienvenu dans mon royaume dans ce cas. Vous serez logé dans l'aile ouest du château, près de mon bureau. Ma porte vous sera toujours ouverte.
Je regardai la porte fermée, puis le petit roi, qui, même lorsqu'il souriait, donnait l'impression d'être sur le point d'éclater en sanglots. « Hyperion ? » demandai-je. Il avait plusieurs fois mentionné le nom de ce monde colonie retourné à l'état primitif.
Exactement. Les vaisseaux d'ensemencement y sont depuis quelques années avec des androïdes, Martin, pour préparer le terrain en quelque sorte.
Je haussai un sourcil. La fortune du roi Billy ne venait pas de son royaume, mais de ses investissements massifs dans l'économie du Retz. Même ainsi, cependant, s'il avait entrepris un programme clandestin de recolonisation depuis plusieurs années, le coût de l'opération devait être fantastique.
Est-ce que vous vous rappelez pourquoi les premiers colons ont nommé la planète Hyperion, Martin ?
Bien sûr. Avant l'Égir, ils formaient une communauté franche sur l'une des lunes de Saturne qui portait ce nom. Ne pouvant subsister sans être ravitaillés par la Terre, ils ont émigré dans les territoires lointains et nommé Hyperion le monde qu'ils avaient l'intention d'explorer. Le roi Billy sourit tristement.
Mais savez-vous pourquoi ce nom est propice à notre entreprise ?
Il me fallut une dizaine de secondes pour faire la jonction. Keats, lui dis-je. Plusieurs années auparavant, vers la fin d'une longue discussion sur l'essence de la poésie, le roi Billy m'avait demandé qui était, à mon avis, le plus pur des poètes qui eussent jamais existé. « Le plus pur, vous voulez dire le plus grand, Majesté ?»«
Non, non. Il est absurde de chercher à savoir qui était le plus grand. Je suis simplement curieux de savoir qui vous considérez comme le plus pur et le plus proche de l'essence que vous décrivez. »
J'avais réfléchi plusieurs jours à sa question. Et je lui ai donné ma réponse tandis que nous contemplions le coucher des soleils du haut de la falaise qui jouxtait le palais. Des ombres rouges et bleues s'étiraient sur la pelouse dans notre direction. « C'est Keats, lui ai-je dit.
« John Keats. Ah ! Et pour quelle raison ? »
Je lui avais expliqué ce que je pensais du poète de l'ancienne terre du XIXe siècle, de son éducation, de sa formation et de sa mort précoce. Mais surtout, je lui avais parlé de son existence presque totalement consacrée au mystère et aux beautés de la création poétique. Billy avait paru intéressé. Il semblait même véritablement obsédé à présent, tandis que d'un geste large de la main, il faisait apparaître une modélisation holo qui occupait presque toute la salle. Je fis quelques pas en arrière, passant à travers des constructions, des montagnes et des moutons en train de paître pour avoir le recul nécessaire.
« Contemplez Hyperion, mon ami !»
me dit-il en oubliant de bégayer comme chaque fois que quelque chose l'absorbait totalement. L'image holo se transforma en une série de vues de cités portuaires sur l'océan ou sur des fleuves, de nids d'aigles sur des montagnes, et d'une cité perchée sur une colline au versant couvert de monuments qui ressemblait aux étranges constructions d'une vallée voisine. « Les tombeaux du temps ? » demandai-je.
« Exactement. Le plus grand mystère de tout l'univers connu. »
Je fronçai les sourcils devant ce qui me semblait être une exagération. « Ils sont vides, lui dis-je. On n'a jamais retrouvé un seul foutu objet à proximité depuis leur découverte. »«
Ils sont la source d'un étrange champ de force anthropique dont les effets se font encore ressentir. Ils représentent l'un des rares phénomènes, en dehors des singularités, qui osent défier le temps elle-même. »
« Cela ne va pas très loin. C'est sans doute comme une couche de minium sur du métal, pour préserver de la rouille. Ils étaient censés durer, mais ils sont vides. »« Et depuis quand sommes-nous censés nous extasier sur la technologie ?»«
Ce n'est pas de la technologie, »
soupira le roi Billy, dont le visage sembla s'affaisser un peu plus dans ses plis adipeux.
« C'est du mystère. C'est toute l'étrangeté nécessaire à l'esprit créatif. » Un mélange parfait d'utopie classique et d'énigmes païennes.
Je haussai les épaules, pas du tout impressionné. Le roi chassa d'un geste l'image holo.
Est-ce que votre poésie s'est améliorée ?
Je croisai les bras en toisant le nain mou royal. Non.
Et votre muse est-elle revenue ?
Je ne répondis pas. Si le regard tuait, nous aurions tous crié « Le roi est mort, vive le roi !» avant la tombée du soir.
« Très bien !»
me dit-il, prouvant qu'il était capable d'être aussi suffisant que triste.
« Faites vos valises, mon garçon. Nous partons pour Hyperion. »
Ouverture en fondue. Les cinq vaisseaux d'ensemencement du roi Billy le Triste flottent comme des aigrettes dorées de pissenlit au-dessus d'un ciel lapis. Des cités toutes blanches se dressent sur trois continents. Kitz, Endymion et Port-Romance, la cité des poètes elle-même. Plus de 8000 pèlerins des arts cherchant à échapper à la tyrannie de la médiocrité en essayant de renouveler leur vision des choses sur ce monde non dégrossi. Asquith et Windsor en exil étaient des centres de biofacture d'androïdes au siècle qui a précédé l'Égire. Ces amis de l'homme à la peau bleue travaillaient et suaient dans l'idée qu'une fois leur labeur terminé, ils seraient enfin libres comme l'air. Les cités blanches se sont élevées. Les indigènes, fatigués de jouer aux primitifs, sont sortis de leurs villages et de leurs forêts pour nous aider à reconstruire la colonie selon des spécifications un peu plus humaines. Les technocrates, bureaucrates et écocrates furent sortis de la naphtaline et lâchés sur un monde sans méfiance. Le rêve de Billy le Triste fut alors tout près de se concrétiser. Lorsque nous arrivâmes sur Hyperion, le général Horace Glennon-Hite était mort, sa brève mais brutale mutinerie déjà écrasée. Mais il était trop tard pour retourner en arrière. Quelques-uns de nos artistes et artisans les plus endurcis boudèrent la cité des poètes pour aller mener une existence difficile mais créative à Jackson ou à Port-Romance, ou même encore dans les territoires vierges en expansion. Mais, pour ma part, je choisis de rester avec Billy. Durant les premières années, je ne trouvais pas ma muse sur Hyperion. Pour beaucoup d'entre nous, les formidables distances, en raison du manque de moyens de transport,
les VEM étaient peu sûrs et les glisseurs extrêmement rares, ainsi que l'amenuisement de la conscience artificielle dû à l'absence d'infosphère et de toute liaison avec la pangermie autre que notre unique mégatrans, conduisirent à un renouveau des énergies créatrices et à une prise de conscience accrue de ce que signifiait la condition humaine et artistique. C'est du moins ce que l'on disait. Aucune muse ne se manifesta à moi. Ma poésie était toujours techniquement parfaite et artistiquement aussi morte que le chat d'Huckleberry Finn. Je pris la décision de mettre fin à mes jours. Tout d'abord, cependant, je passai quelque temps, 9 ans au moins, à faire œuvre communautaire en fournissant à Hyperion la seule chose qui lui manquait, le sens de la décadence. Auprès d'un biosculpteur portant le nom prédestiné de Groman Raclette, je me procurais les flancs velus, les sabots et les pieds de bouc d'un satyre. Je laissais pousser ma barbe et allongeais mes oreilles en pointe. Groman pratiqua également quelques intéressantes modifications de mon anatomie sexuelle. La chose ne tarda pas à se savoir. De jeunes paysannes, des indigènes, des femmes de pionniers et d'urbanistes au sang bleu attendirent ou sollicitèrent la visite du seul satyre authentique d'Hyperion. J'appris ce que les mots priapisme et satyriasis signifient réellement. Outre les joutes sexuelles sans fin, je laissais mes beuveries devenir légendaires et mon vocabulaire régressait presque au stade de l'époque où j'avais eu mon attaque cérébrale. Je prenais un putain de pied. Je plongeais peu à peu dans un putain d'enfer. Puis, la nuit où j'avais prévu de me faire sauter la cervelle, Grendel apparut. Note pour une esquisse du monstre. Nos pires cauchemars se sont concrétisés. Quelque chose d'horrible nous voile la lumière. Les ombres de Morbius et du Krell. Mets du bois dans l'âtre, maman. Grendel vient nous voir ce soir. Au début, nous croyons que ceux qui manquent sont simplement partis ailleurs. Il n'y a pas de guetteurs sur les murs de notre cité. Il n'y a même pas de mur en réalité. Aucun soldat ne garde les portes de notre salle de libation. Puis un mari vient nous signaler la disparition de sa femme entre le repas du soir et le coucher de leurs 2 enfants. Oban Christus, le peintre impressionniste abstrait, rate son entrée dans l'amphithéâtre des poètes pour la première fois de ses 82 ans de métier. L'inquiétude commence à se répandre. Le roi Billy le Triste, de retour de sa visite officielle sur les chantiers de restauration de Jackson, promet que les mesures de sécurité seront renforcées. Un réseau de surveillance automatique est mis en place autour de la ville. Les électroniciens de notre flotte passent les tombeaux du temps au détecteur et nous assurent que tout est vide. Des spécialistes sont envoyés à l'entrée des labyrinthes au pied du tombeau de Jade. Ils ne détectent rien dans un rayon de 6000 km. Des glisseurs automatiques ou habités sillonnent tout le secteur qui s'étend entre la cité et la chaîne bridée. Ils ne repèrent rien de plus que la signature thermique d'une anguille de roche. Durant 3 semaines, les disparitions cessent. Puis la série de morts commence. Le sculpteur Pete Garcia est retrouvé dans son studio et dans sa chambre à coucher et dans son patio. Le directeur de la sécurité, Truyn Hines, commet la folie de déclarer à un médiatique « C'est comme s'il avait été mutilé par une bête furieuse. Seulement aucun animal, à ma connaissance, ne pourrait mettre un homme dans un état pareil. » Nous sommes tous secrètement excités et titillés. C'est vrai que les dialogues sont mauvais, comme dans un million de films et de holos avec lesquels nous avons joué à nous faire peur. Mais à présent, nous faisons partie du spectacle. Nos soupçons vont d'abord au plus évident. Il est clair qu'un psychopathe se promène en liberté parmi nous. Il tue probablement à l'aide d'une lame pulsante ou d'un clap. Cette fois-ci, il ou elle n'a pas eu le temps de faire disparaître le corps. Pauvre Pete.